abordé la dernière fois. Après avoir vu les principaux lieux de refuge, nous allons poursuivre notre énumération et parler un peu de l'Angleterre. L'Angleterre, bien sûr, a été une des objectifs de notamment des protestants de l'Ouest qui se réfugiaient en Angleterre. Il y a eu, dès le départ, n'est-ce pas, dès la révocation des l'édit Nantes et même avant, une importante colonie huguenote en Angleterre, dont il reste des vestiges jusqu'à nos jours, puisque jusqu'à ce jour, il existe à Londres une église française, une église de langue française, n'est-ce pas, qui est l'héritière des églises huguenotes qui se sont créées après la révocation de l'édit Nantes. L'Angleterre, nous avons vu à cette période-là, était un petit peu non seulement un lieu de refuge, mais aussi presque, je dirais, un lieu quasi messianique. Et notamment lorsque Guillaume d'Orange, n'est-ce pas, de Hollande, est devenu roi d'Angleterre, eh bien, on a vu en France, parmi les huguenots français, dans cet avènement, dans cette conquête, n'est-ce pas, de l'Angleterre, par un roi protestant, un véritable signe messianique. Certains sont même allés faire des rapprochements avec les prophéties de Daniel, nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas, dont ils voyaient l'accomplissement dans l'arrivée sur le trône de Guillaume III d'Orange. En fin de compte, n'est-ce pas, la déception a été à la mesure des espérances qui avaient été mises justement dans cette vision-là. Ce qui, entre parenthèses, montre bien combien il nous faut être extrêmement prudents lorsque nous faisons coller des prophéties avec des événements de notre temps, manquant du recul historique nécessaire pour ce faire. Et on peut faire finalement le même type d'erreur aujourd'hui, je fais une petite digression à ce niveau-là, par exemple, des journaux que je ne citerai pas, mais des journaux, moi je les cite pas, ça fait rien, c'est pas du genre des nouvelles d'Israël de Vimalgo, par exemple, ou d'autres livres du même genre, c'est pas, ou alors on prend une nouvelle dans le journal, souvent un petit peu tiré par les cheveux, et puis alors ensuite il y a une petite explication, ceci est l'accomplissement de ce qui est écrit dans tel texte, soit je sais pas moi, par exemple une découverte dans le domaine médical en Israël, ceci c'est ce qui s'accomplit, ce qui est écrit dans le texte, n'est-ce pas, alors on vous trouve un texte tiré par les cheveux qu'on interprète d'une manière qui est tout aussi tirée par les cheveux, n'est-ce pas, bon, et alors ça s'est fait toujours, ça s'est fait de tous les temps et ça continue à se faire aujourd'hui. Et alors, le gros drame qui se produit dans ces choses-là, c'est que justement, comme le dit le texte du Deutéronome, on voit un véritable prophète à l'accomplissement de ses prophéties. Et beaucoup, à partir de ces interprétations prophétiques, se sont révélés être de faux prophètes. On pourrait citer les témoins de Jéhovah, par exemple, aussi, ou les étudiants de la Bible, les adventistes qui ont fait le même genre d'erreur. Et quand les prédictions se révèlent être fausses, eh bien, c'est le crédit dans toute la prophétie biblique qui est atteint, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on s'en prend dans les milieux plus ou moins libéraux, n'est-ce pas, à ceux qui essayent de lire les événements actuels ou futurs, n'est-ce pas, dans les écrits prophétiques, alors que précisément on peut le faire. On doit le faire, bibliquement parlant, mais avec beaucoup de précautions. Et on avait toujours un grand recul, prenant beaucoup de hauteur, pour ne pas voir, n'est-ce pas, dans les événements de notre temps, eh bien, les événements bibliques eux-mêmes, quoi. Sachant que les choses sont beaucoup plus complexes, en général, dans l'interprétation prophétique, que ce que nous pouvons en penser. Donc, Guillaume III devient roi d'Angleterre, et résultat de cet avènement, les Huguenots qui sont réfugiés en Angleterre deviennent des ennemis acharnés de la France, et notamment de Louis XIV. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1686, l'Angleterre, après la révolution de Guillaume, n'est-ce pas, devient pour la première fois une monarchie parlementaire. C'en est fait de l'absolutisme royal en Angleterre. Et c'est une véritable révolution pacifique, infiniment moins sanglante que la Révolution française, qui aura lieu un siècle plus tard, n'est-ce pas, dont on ne mesure pas encore la portée, que cette élimination de la, de l'absolutisme royal. Et on appelle cela, n'est-ce pas, dans l'histoire anglaise, la glorieuse, qui voit la chute de la maison des Stuarts. En France, à la cour du roi Soleil, on panique. On panique en face de cette révolution. D'abord parce que les alliés de la France sont éliminés. Et qui plus est d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est que le roi catholique Jacques II s'enfuit en France. Il se réfugie à Saint-Germain-en-Laye. Bon, ça, c'est dramatique. Mais il y a pire pour le roi Soleil. C'est que Louis XIV est suffisamment intelligent et ses conseillers aussi pour se rendre compte que l'idée d'absolutisme royal qu'il a poussé à son apogée, puisqu'il a étalé jusqu'à dire « l'État, c'est moi », enfin du moins on lui prête ce mot, je ne sais pas s'il est authentique, s'il ne l'est pas en tout cas dans les faits, c'est ainsi qu'il a vécu la chose, n'est-ce pas ? Et voilà que pour la première fois, non seulement, n'est-ce pas, il y a la République dont Louis XIV avait horreur, qui était pour lui l'épouvantail des épouvantails. Mais même, n'est-ce pas, cette espèce de démocratie abhorrée, eh bien, parvient même à coexister dans un système monarchique. Un système monarchique protestant et un système monarchique qui est voisin de la France, rival de la France, un des principaux rivaux de la France. Et l'Angleterre devient alors l'ennemi numéro un de la France. Dans le même temps, bien évidemment, dans la mesure où le parlementarisme est tout à fait conforme à l'esprit protestant, l'Angleterre va attirer de plus en plus de réfugiés huguenots français. Et c'est ainsi qu'à la fin du siècle, il y aura entre 50 000 à 80 000 réfugiés, notamment dans le sud du pays, dans le sud de l'Angleterre. Et ce qui est aussi extrêmement négatif pour le roi Soleil, c'est que les informations qui viennent d'Angleterre, par le moyen des huguenots, ça, se retournent à fond contre la France, contre l'absolutisme de Louis XIV. Et puis commence à cette époque-là aussi un travail de sape important. C'est qu'au sein, n'est-ce pas, de la population huguenote française, marane, pourrait-on dire, puisque officiellement elle est catholique, eh bien, interviennent d'Angleterre des colporteurs. Des colporteurs qui sont soit des huguenots qui reviennent en France, au péril de leur vie, bien évidemment, soit carrément des Anglais. Et c'est le début, n'est-ce pas, de cette œuvre très importante qui va marquer le protestantisme, les colporteurs. Les colporteurs qui vont de lieu en lieu, proposant du fil, du tissu, des menus objets aux femmes, soit, et aussi la Bible, des livres pieux, des recueils de cantiques, des Nouveaux Testaments et des choses semblables. Et les colporteurs seront des éléments non négligeables du maintien de la foi protestante en France et, pourrait-on dire aussi, des différents réveils qui vont marquer la France jusqu'au début de ce siècle, pratiquement. Et il n'y a pas si longtemps qu'en Bretagne, même, n'est-ce pas, encore dans la première moitié de ce siècle, il y avait des colporteurs qui allaient de lieu en lieu selon les vieilles méthodes qui remontaient donc au XVIIe siècle essentiellement. Maintenant, revenons à l'Allemagne, si vous le voulez. Allemagne qui était un pays qui avait énormément souffert des guerres de religion. Et la période qui va de 1617 à 1648 avait vu un considérable affaiblissement de l'Empire, Saint-Empire romain germanique, comme conséquence notamment des guerres de religion et plus particulièrement la guerre de 30 ans. À l'époque qui nous intéresse, l'Allemagne était divisée en plus de 300 États souverains. Ce n'était pas un pays comme la France, qui était centralisée, n'est-ce pas, et qui faisait, il faut bien le reconnaître, de la France un pays infiniment plus efficace que l'Allemagne. Il est certain que le centralisme et l'absolutisme royal avaient une efficacité indéniable, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan des communications, que sais-je encore. Mais en Allemagne, comme conséquence de la guerre de 30 ans, environ un tiers de la population d'Allemagne avait péri. C'est considérable. La paix de Westphalie avait entériné le principe, le principe, le vieux principe cuius regio, cuius religio, c'est-à-dire la religion du prince et la religion du peuple, mais avec des nuances. C'est-à-dire qu'on avait considéré que la religion minoritaire, c'est-à-dire le protestantisme dans les États catholiques et le catholicisme vice-versa dans les États protestants, s'il y avait eu une implantation de la religion minoritaire dans le passé, cette religion minoritaire avait droit de cité dans certaines limites. Elle avait droit d'existence. Et notamment, il y avait liberté d'émigration. Ceux qui ne voulaient pas professer la religion majoritaire devaient avoir la liberté d'émigrer. En principe, c'était une règle que tous les États européens avaient acceptée, y compris la France. Or, la France bafouait cette clause qui, en principe, la concernait en premier chef. La concernait à deux niveaux, parce qu'il est vrai que le protestantisme avait existé dans le passé en tant que religion minoritaire et que, par conséquent, selon les termes mêmes du traité de Westphalie, les réformés, les huguenots, auraient dû avoir le droit de pratiquer leur religion dans certaines limites, c'est-à-dire finalement, c'était une avalisation de l'édit de Nantes, qui justement permettait la religion minoritaire de s'exprimer dans des limites extrêmement restreintes, mais lui permettait tout de même et lui donnait un statut et un droit d'existence. Et deuxièmement, la France bafouait le deuxième principe du traité de Westphalie, à savoir la liberté d'émigration des religionnaires qui ne voulaient pas se soumettre à la religion majoritaire. Mais, comme la France était l'État le plus puissant d'Europe, donc du monde, eh bien, la raison du plus fort étant toujours la meilleure, personne n'est venu chercher des noises à la France. Seulement, le problème, c'est que les Huguenots ont eu vent de ce traité de Westphalie. Et le traité de Westphalie a redonné, comment dirais-je, du punch aux Huguenots français qui se sont dit, après tout, un petit peu, si vous voulez, comme les accords d'Helsinki dans les années 70, ont donné aux réfusniks russes une nouvelle énergie pour poursuivre leur combat. Et finalement, 20 ans plus tard, n'est-ce pas, le traité d'Helsinki a fini par porter ses fruits et puis les régimes communistes ont dû se libéraliser et finalement disparaître. Donc c'est ce qui risquait d'arriver aussi en France. Le traité de Westphalie avait donné un nouveau punch à la résistance des Huguenots français, aux refusniks français, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Et à terme, c'était la politique de Louis XIV qui était condamnée, le ver était dans le fruit, en fin de compte. Mais alors il y a un autre événement qui existe en Allemagne aussi, c'est que dans ce pays, comme conséquence des guerres de religion, on a un petit peu le parallèle de ce qui se passe en France, c'est-à-dire une certaine indifférence religieuse grandit dans la population. Et puis on a un mouvement inverse, des spéculations millénaristes qui reprennent, comme il y en avait eu à l'époque des anabaptistes extrémistes. Et c'est cette évolution, en particulier, qui n'est pas d'ailleurs toujours farfelu, n'est-ce pas ? Eh bien, donnera à la fin du XVIIe siècle, le dernier tiers du XVIIe siècle, un mouvement de réveil que l'on appellera le piétisme allemand. sécrétisme allemand, qui est un authentique mouvement de réveil, même si il est un petit peu inspiré du quiétisme français de Madame Guyon, dont nous avons déjà parlé, donc catholique. Très intéressant de voir finalement comment les mouvements, si vous voulez, qui traversent les différentes églises rejaillissent sur les églises voisines. Par exemple, les querelles dont nous allons parler dans un instant entre calvinistes et arminiens au sein du protestantisme vont avoir leur pendant dans le catholicisme avec le jansénisme, par exemple. Et le quiétisme de Madame Guyon, de l'évêque Fénelon, nous avons déjà parlé, va avoir son pendant, n'est-ce pas, dans le protestantisme avec le piétisme allemand. Et puis ensuite, au siècle suivant, 18e siècle en particulier, avec le comte de Zinzendorf. Alors, finalement, avec ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a de négatif. Le négatif étant, n'est-ce pas, une espèce de piété un peu sentimentale, à l'eau de rose, un peu mièvre, à la pâte de guimauve, n'est-ce pas, dans ces formes dégradées. Mais, ça, c'est dans les formes dégradées, à la fin du mouvement, pourrait-on dire. Il y a eu dans le piétisme allemand deux véritables interventions de l'Esprit de Dieu, notamment dans le domaine des guérisons. La guérison n'est pas un phénomène ni une vérité qui a été redécouverte par les pentecôtistes. Le piétisme avait redécouvert ça, l'exorcisme aussi d'ailleurs. Les possessions démoniaques et par conséquent la possibilité de chasser les démons, les piétistes allemands le connaissaient. Ce qui a été particulièrement nouveau dans le pentecôtisme, c'était le baptême dans le Saint-Esprit, mais pas véritablement les guérisons, les exorcismes, ou les miracles, si l'on peut dire. Alors ensuite, ce mouvement de piétisme va toucher les églises luthériennes, mais pas les églises réformées. Et les églises réformées vont regarder avec suspicion ce mouvement piétiste. Et alors, il va y avoir, non pas un antagonisme, ce serait beaucoup dire, mais un fossé, n'est-ce pas, qui va s'agrandir entre luthériens et réformés, notamment comme résultat du piétisme. Et le luthéranisme, jusqu'à nos jours, est resté marqué par le piétisme allemand, qui lui donne une dimension beaucoup plus évangélique que l'Église réformée. Tout étant relatif, bien entendu. Et c'est un petit peu dommage que le calvinisme, c'est-à-dire les églises réformées, n'ait pas connu de phénomène semblable au piétisme, qui fait que les églises réformées sont restées beaucoup plus rationalistes, beaucoup plus, avec une piété beaucoup moins développée, si vous voulez, que dans les églises luthériennes, d'une manière générale, tout en étant, bien entendu, là aussi, quelque chose de tout à fait relatif. Et alors, n'est-ce pas, il y aura finalement en 1653 un rapprochement entre les deux églises. Mais pour les réformés, la réforme luthérienne n'est pas allée assez loin. Elle n'a pas suffisamment rompu avec le catholicisme. Or, à partir de 1685, nous allons avoir une arrivée massive en Allemagne de réformés. De réformés qui arrivent en plein réveil piétiste au sein des églises luthériennes. Et c'est pourquoi, finalement, la coexistence entre les réformés français qui viennent s'installer en Allemagne et les luthériens allemands ne va pas de soi. Et il va y avoir des heurts plus ou moins importants qui finiront par s'arranger avec le temps, mais qui font que la coexistence n'a pas toujours été facile. C'est dans le Palatinat que les réformés français vont s'installer les plus nombreux, parce que le Palatinat est la région d'Allemagne qui a la plus souffert des guerres de 30 ans, de la guerre de 30 ans. Et pour vous montrer juste à quel point le Palatinat était ouvert, le prince Charles-Louis, qui était donc le prince de la région, va jusqu'à autoriser les Mennonites. Les Mennonites, c'est-à-dire les descendants des anabaptistes, c'est pas qui vont être légalisés dans ces États. Alors, ils appliquent le traité de Westphalie à la lettre, et les catholiques aussi ont le droit d'exister dans le Palatinat, mais uniquement comme devotio domestica, ça veut dire dévotion privée, n'est-ce pas? Et en fin de compte, le prince Charles-Louis va militer pour une réconciliation entre réformés et luthériens dans ces États. En 1655, les Ménonites reçoivent l'autorisation du prince d'élever un temple qui leur est propre. Deuxième région dans laquelle les réfugiés s'installent, le Wurtemberg, où là aussi deux tiers de la population a été exterminée pendant la guerre de 30 ans. Donc, tout apport de population est le bienvenu pour essayer de redonner un sang neuf à cette région exsangue. Nous avons aussi la région de Hesse, qui accorde une liberté totale aux Huguenots. Les pays hanséatiques ont aussi énormément souffert de la guerre de 30 ans. Et non seulement viennent s'installer dans ces pays des réformés français, mais également des Néerlandais qui sont pourchassés par l'Inquisition espagnole. Et dans cette région-là, nous allons avoir donc une population mélangée, faite d'Allemands autochtones, de Français et de Néerlandais. Mais la région qui va être la plus, qui va attirer le plus les réformés, c'est le Brandebourg, ou autrement dit la Prusse. La Prusse, qui depuis la conversion du prince à la réforme en 1613, deviendra le rempart du protestantisme. Véritable rempart du protestantisme, non seulement par rapport à la France, mais également dans le monde entier, et notamment jusqu'au XIXe siècle. Néanmoins, à cause de cette querelle entre réformés et luthériens dont nous parlions tout à l'heure, les réformés n'ont pas l'autorisation de tenir en Prusse des synodes qui leur soient propres. Et c'est pourquoi il faut attendre 1685, c'est-à-dire la révocation elle-même, l'année de la révocation, pour que le roi de Prusse accorde un édit reconnaissant des droits et des franchises aux réformés français dans ces États. Et ces avantages qui sont donnés aux fugitifs sont les suivants. Aide à la fuite. S'organisent de véritables réseaux pour les candidats à l'émigration. Et ensuite, exemption d'impôts pendant un an pour ceux qui sont venus s'installer en Prusse. Et c'est ainsi qu'il y a en Brandebourg, en Prusse, à la suite de cet édit qu'on appelle l'édit de Potsdam, de véritables colonies françaises qui s'instaurent. Par exemple, dans la seule ville de Berlin, il y a 18 000 réfugiés français. Ce sont les Huguenots français qui font la ville de Berlin. Il y a dans les campagnes une colonisation rurale et dans les villes une colonisation urbaine. Et c'est à la troisième génération, entre 1660 et 1780, que se fera la véritable intégration de ces populations françaises. Et cette intégration se fera sur trois générations, donc notamment au travers de mariages mixtes. Bon, pendant tout un temps, les gens de la première génération se marient entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que leur séjour en Prusse n'est que provisoire. Ils attendent une libéralisation du régime français et ils espèrent bien pouvoir revenir en France. Et puis, le temps passant, le régime français ne se libéralise absolument pas. Les enfants, puis les petits-enfants, qui sont nés dans le pays, qui n'ont jamais vu la France, n'ont plus de la France qu'un souvenir extrêmement lointain. Et la troisième génération finit par considérer que son pays, c'est la Prusse. Et alors là, on n'a plus aucun scrupule à épouser si j'ose dire, des indigènes, en sorte que c'est fini, c'est intégration, on reste en Prusse. En fait, les premiers voulaient créer en Prusse un véritable État français protestant. Et alors, c'était la même démarche, si vous voulez, qui avait poussé d'autres à vouloir créer aussi un État français en Amérique. et notamment en Louisiane, la Louisiane qui était une colonie française. Et alors, ils avaient demandé au roi Louis XIV, n'est-ce pas, de permettre aux Huguenots de venir se réfugier dans la Louisiane en échange de la liberté de conscience. Bien entendu, Louis XIV, intolérant comme il était, avait refusé net, n'est-ce pas, cette proposition. Alors, on était venu s'installer en Prusse. En 1685, la ville d'Erlangen avait été quasiment décimée par la peste. Et à la suite, n'est-ce pas, de cette terrible épidémie, cette ville s'était ouverte aussi à l'intégration des Huguenots. Même chose pour Nuremberg, qui avait aussi ouvert ses portes toutes grandes aux Huguenots, et les Huguenots avaient contribué à développer dans ces deux villes deux types d'industrie, le textile, hein, et puis tout ce qui touchait à la métallurgie. Et alors, voyons comment les Huguenots avaient apporté un véritable sang neuf avec leur savoir-faire, avec leur technique artisanale et industrielle qui était les leurs. En même temps, n'est-ce pas, les Huguenots sont extrêmement actifs. Ils créent des écoles, des hôpitaux. Il y a parmi eux une moralité très grande, peu de délinquance, peu de naissances illégitimes. Et c'est pourquoi, finalement, les princes allemands sont très contents d'avoir le maximum de Huguenots qui viennent s'installer au milieu d'eux. En 1701, le roi Frédéric de Prusse permet à des Mennonites et des Sauciniens, qui sont des gens qui sont proches des Mennonites, de venir s'installer à Magdebourg, avec une entière liberté. Ça. Ainsi, il y a une libéralisation qui s'opère petit à petit. Alors, on comprend que, ayant été ainsi accueillis à bras ouverts, les Huguenots français vont avoir, vis-à-vis de ces pays qui les ont si bien accueillis, une dette de reconnaissance importante. Ils vont vouloir, ayant perdu tout espoir, n'est-ce pas, de revenir en France, ils vont vouloir s'intégrer et devenir de bons citoyens des pays qui les ont accueillis, de bons Allemands. Et notamment en Prusse, ils vont devenir de fidèles soutiens de la monarchie Hohenzollern, qui deviendra ensuite la monarchie qui unifiera l'Allemagne au XIXe siècle. Et les partisans de l'absolutisme prussien, de la grandeur prussienne, on peut dire que les Huguenots français sont ceux qui vont faire la grandeur de la Prusse, avec toutes les conséquences pour les siècles futurs, n'est-ce pas, au moment des guerres entre la France et la Prusse et l'Allemagne. L'Allemagne conduite par la Prusse, en fin de compte. Et puis, autre chose intéressante aussi, c'est que un certain nombre de descendants de ces Huguenots vont être des gens qui déjà, au départ, n'est-ce pas, étaient marqués par le relativisme et le scepticisme qui marquaient les Huguenots français, comme elle marquera les marins juifs. Émigrés, par exemple, du Portugal aux Pays-Bas. Hein. Et alors, c'est la conjonction de ces deux mouvements, les marins juifs, notamment d'Hollande, avec un homme comme par exemple Baruch Spinoza, sur le plan de la philosophie, et puis les descendants des Huguenots français qui vont donner lieu au siècle suivant à la naissance de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire du scepticisme, du doute rationaliste qui va saper les fondements du christianisme aussi bien catholique que protestant. Ça, c'est la conséquence lointaine des guerres de religion. Développer un scepticisme de gens finalement qui ne se situent plus. Et par exemple, les marins juifs, c'est typique. Les marins juifs ne savent plus ce qu'ils sont. Sont-ils chrétiens? Sont-ils juifs? Ils ne savent plus. Et il y a chez eux, n'est-ce pas, une véritable crise d'identité. Et en même temps, cette crise d'identité les amène à deux choses. Premièrement, une véritable haine du christianisme qui les a persécutés. Une haine totale. Et cette haine les amène à vouloir détruire les fondements du christianisme par une critique en profondeur du christianisme. des dogmes. Et c'est l'époque de la science naissante, du scientisme naissant, disons plus exactement. Et alors, c'est l'époque où on va utiliser le scientisme pour tenter justement de saper les bases de la foi chrétienne, tant catholique que protestante. Et du côté des descendants des Huguenots, on a un petit peu le même vide psychologique. Les enfants de la deuxième génération en particulier, certains d'entre eux ont été élevés catholiques, la plupart d'entre eux ont été élevés catholiques, puis au moment où leurs parents ont fui, ils sont redevenus protestants, sans avoir fait des expériences profondes spirituellement qui les ont marqués. Et finalement, crise d'identité, que sont-ils? Sont-ils catholiques? Sont-ils protestants? Et finalement, c'est la même démarche. Ils sont sensibles aux idées des maranes. Voyez-vous, il y a là, dans cette idée d'un complot juif mondial contre les bases de la civilisation occidentale chrétienne, c'est là, n'est-ce pas? Les protocoles des sages de Sion viennent de là. Parce que c'est vrai, on a vu des gens comme Baruch Spinoza, comme d'autres philosophes, n'est-ce pas, se mettre à vouloir saper les bases du christianisme. Mais on ne s'est pas rendu compte que la responsabilité allait beaucoup plus loin. La responsabilité était chez ceux qui, justement, avaient amené ces gens à un tel état de désespoir, en fin de compte. C'est-à-dire les inquisiteurs. Les inquisiteurs en Espagne ou au Portugal. Comme, finalement, en France, avec ceux qui avaient révoqué l'édit de Nantes. Et alors, nous allons avoir, au siècle suivant, l'explosion de ce qui était en germe. La philosophie des Lumières, le siècle des Lumières, la mise en cause, la critique de toute forme de religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit juive. Le judaïsme n'échappera pas à cette critique de la religion de la part de ses propres co-religionnaires. On appelle en hébreu la Haskalah, les Lumières, en quelque sorte, ça veut dire exactement la même chose. Et au nom d'une science naissante, et alors la conséquence sera la Révolution française. La Révolution française sera le pur produit, n'est-ce pas, de la philosophie des Lumières, avec ses excès, avec sa folie sanguinaire, hein, et l'Europe ne se remettra jamais des conséquences de cette évolution-là. Une évolution qu'il faut chercher justement dans l'intolérance qui avait marqué justement les 16e et 17e siècles, essentiellement. Alors, la Prusse va devenir l'incarnation au siècle suivant de cette idée des Lumières. Et en même temps, n'est-ce pas, il va y avoir la notion d'État qui va être élevé, c'est un des concepts justement de la philosophie des Lumières, qui naît déjà à cette période-là. Ce qui va primer sur toute autre chose, c'est la nationalité, être un bon citoyen de l'État dans lequel on est. Le nationalisme va naître à partir de cette période-là, alors que jusque maintenant, il n'était pas très, très, très... Le sentiment national n'était pas extrêmement poussé. N'est-ce pas? D'ailleurs, on changeait de nationalité au gré du mariage d'un prince, au gré d'une guerre. N'est-ce pas? On était français, on était breton, on était prussien, on était... Bon. Mais à partir justement de l'État prussien qui naît, au moment où l'identification religieuse s'estompe, ce qui va prendre le pas sur l'identité religieuse, c'est l'identité nationale. Peu importe qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, l'essentiel, c'est qu'on soit un bon Prussien. C'est qu'on soit un bon citoyen de la Prusse. D'ailleurs, pour les Huguenots français, un bon chrétien ne peut être qu'un bon citoyen. À partir du moment où les Huguenots français ont décidé de passer avec armes et bagages à l'État prussien, ils vont devenir des bons Prussiens, aussi bien qu'ils auraient été de bons Français si le roi de France avait été un homme beaucoup plus ouvert et beaucoup plus compréhensif. Et les Huguenots français vont devenir les meilleurs des Allemands. Là, il y a ce paradoxe incroyable. Et puis, ils deviendront aussi, parmi certains d'entre eux, parmi les meilleurs hitlériens. Voilà. La boucle est bouclée. Et certains vont germaniser leurs noms, d'autres garderont des noms français. Il y avait, par exemple, un général allemand dans la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait von Arnaud de la Perrière. Bon, pas la peine de chercher beaucoup plus loin. C'était un Français. C'était un descendant du Huguenot français. Alors, voilà les conséquences, n'est-ce pas, de cette folie que fut la révocation de l'édit de Nantes. Louis XIV n'a pas mesuré un instant, il ne pouvait pas le faire, le malheureux, il aurait fallu une véritable vision prophétique pour ça, il n'a pas mesuré un instant les conséquences, n'est-ce pas, lointaines de ses actes. Non seulement qu'il était en train de détruire ce qu'il avait lui-même construit pendant toute son existence, c'est-à-dire en train de semer les ferments de la destruction de l'absolutisme royal, et par conséquent qu'il faisait le lit de la République en France et de la démocratie qui était pour lui la personnification du diable, qu'il était en train de fortifier des États voisins qui étaient faible, mais qui un jour allait se retourner contre la France. Et puis surtout qu'il était en train de détruire non seulement la religion qu'il rêvait d'anéantir, le protestantisme, mais la propre religion qu'il croyait être la seule vérité. Et qu'un siècle plus tard, eh bien, c'est cette religion-là qui serait mise en question, qui serait mise au banc de la société tout entière. Alors voilà à quoi tiennent les choses, voyez-vous. Il y a parfois des actes qui sont lourds de conséquences pour des siècles. Et les conséquences de l'édit de Nantes, eh bien, nous les connaissons encore aujourd'hui. Et je dirais, nous en souffrons encore aujourd'hui. Et le rationalisme, le scepticisme qui marque l'Europe, dont nous parlons dans notre dernière étude sur l'ecclésiologie, n'est-ce pas, remonte là. Si l'Europe, n'est-ce pas, aujourd'hui se détourne de Dieu, c'est, je ne dirais pas seulement à cause des guerres de religion et de la révocation des édits de Nantes, ça forme un tout, mais disons que les guerres de religion et la révocation des édits de Nantes ont été la goutte qui a fait déborder le vase. Déjà, l'oppression papale du Moyen-Âge, n'est-ce pas, avait déjà préparé le lit à cette contestation. D'ailleurs, le protestantisme du XVIe siècle était déjà une contestation contre les excès du papisme du Moyen-Âge. C'est pas le Moyen-Âge qui s'achevait, mais du protestantisme, dont on n'a pas su intégrer la contestation qui aurait pu et qui aurait dû et qui se voulait être. Justement, un rééquilibrage de ce que les réformateurs percevaient fort bien comme étant quelque chose qui avait fait son temps et qui, de toute façon, allait au-devant de catastrophes, allait provoquer des catastrophes pour l'Évangile tout entier, n'est-ce pas ? Et seulement l'Église catholique n'a pas su prendre en compte cette interpellation protestante, cette protestation protestante, si l'on peut dire, hein ? Et ce faisant, a mis le point final à ce que le protestantisme voulait éviter, justement. C'est-à-dire ce discrédit total jeté sur l'Église catholique, mais au-delà de l'Église catholique, sur l'Évangile lui-même, dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, eh bien, nous en souffrons encore. Alors voilà, si vous voulez, c'est ce qu'on peut dire sur le protestantisme français au XVIIe siècle. Nous y reviendrons à la fin de cette étude pour parler juste un peu des galères. Maintenant, si vous le voulez, nous attaquons à un nouveau chapitre, le catholicisme au XVIIe siècle. Je crois que c'est Victor Hugo qui a eu cette phrase « Ce siècle fut chrétien mais janséniste ». Comme nous l'avons vu, la religion au XVIIe siècle était quelque chose d'important pour les gens de ce siècle. Et si une des choses importantes, un des éléments importants de l'histoire de l'Église au XVIIe siècle fut le conflit entre catholiques et protestants, ce ne fut pas le seul, car le catholicisme lui-même a été à cette époque-là marqué par différents courants. Le plus important d'entre eux a été le jansénisme. Le jansénisme tient son nom d'un évêque d'Ypres qui se nommait justement Jansénus, d'où le nom de jansénisme, qui a vécu de 1585 à 1638, date de sa mort, essentielle de sa mort, et qui a réagi très vivement contre, la vision jésuite. Les jésuites, qui étaient nés au siècle précédent, dans le courant de la mouvance de la contre-réforme, notamment en France, étaient ceux qui avaient pris la haute main sur la marche de l'Église et sur la théologie, pourrait-on dire. Ils étaient véritablement, à cette époque-là, l'aile marchande de l'Église catholique. Et le jansénisme était une réaction contre la toute-puissance des jésuites à cette période-là. Et en même temps, c'était non seulement une réaction contre, de type, politique, pas simplement au sens étroit du terme, mais au sens large, mais c'était aussi une réaction théologique. Et Jansénus est un homme qui a redécouvert Augustin. Redécouvert Augustin, un petit peu comme l'avait fait Luther un siècle plus tôt. Et avec des résultats qui ont été quasiment identiques. C'est-à-dire, redécouverte de l'Épître aux Romains, redécouverte du salut par grâce et par conséquent de la conversion. Jansénus a écrit ses conclusions dans un ouvrage qui a été publié après sa mort et qui se nommait l'Augustinus, parce que justement il était un commentaire de la théologie d'Augustin. Et dans le courant d'Augustin, Jansénus regrettait amèrement que l'on ait abandonné la théologie augustinienne pour la théologie des mérites, qui était celle essentiellement des jésuites. Alors vous voyez ici que nous touchons à un débat fondamental. Jansénus enseigne donc le salut par la foi, et avec des conséquences qui étaient les mêmes que pour Luther et Calvin, par exemple, quand ils avaient aussi redécouvert la théologie augustinienne, c'est-à-dire la notion de la prédestination. S'il y a grâce imméritée, alors, dit Augustin, c'est qu'il y a prédestination. Dieu ayant prédestiné d'avance ceux auxquels il voulait faire grâce, et ceux auxquels il ne voulait pas faire grâce. Maintenant, celui qui est l'objet de la grâce divine est un homme ou une femme qui se trouve amené, de par la grâce qui lui a été faite, à vivre dans la sainteté, dans le détachement du monde, bref, dans les vertus évangéliques telles qu'elles sont définies dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire, en fin de compte, dans ce que l'on appelait à cette époque-là une morale austère. Dans un premier temps, c'est surtout en Hollande que les idées de Jansénus se répandent, et c'est un abbé français qui s'appelle l'abbé de Saint-Cyr, qui, à partir de 1681, se met à prêcher ses doctrines en France. Et l'abbé de Saint-Cyr est en particulier le directeur de conscience de la communauté démoniale de Port-Royal des Champs, monastère de Port-Royal des Champs dans la région parisienne. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, l'abbé de Saint-Cyr fait pénétrer dans le monastère de Port-Royal les idées jansénistes, en sorte que, après la conversion, si l'on peut dire, de la supérieure du monastère qui s'appelle Angélique Arnaud, le monastère de Port-Royal des Champs devient le haut lieu du jansénisme français et on pourrait même dire du jansénisme mondial. Angélique Arnaud opère une véritable réforme dans son monastère suite à la prédication de l'abbé de Saint-Cyr. Et elle ouvre, le monastère, aux tout venant, à tous ceux qui ont soif de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un monastère fermé, comme l'étaient la plupart des monastères à cette période-là, le monastère de Port-Royal des Champs devient un centre de rayonnement, ça veut dire ce qu'était la vision initiale du monachisme. On y vient pour des retraites et on s'initie aux idées jansénistes à Port-Royal des Champs. Et c'est ainsi que, notamment, il y a des hommes, c'est un monastère de femmes, logiquement, ça, mais on y accueille des hommes. Des hommes auxquels on ne demande pas de formuler des vœux monachiques, les trois vœux traditionnels, chasteté, pauvreté, obéissance, mais des gens qui sont tout simplement en recherche. Les messieurs de Port-Royal, à la tête desquels se trouve le propre frère d'Angélique Arnaud, qu'on appellera le grand Arnaud, qui deviendra un des, comment on peut dire, un des maîtres à penser du mouvement janséniste, et qui est à la tête de ce qu'on appelle les messieurs de Port-Royal ou les solitaires de Port-Royal. Solitaires qui viennent faire retraite, c'est pareil, qui viennent prier. Et alors, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'au centre, n'est-ce pas, de ces retraites de Port-Royal, il y a la Bible. Il y a une véritable réhabilitation de la Bible, en sorte que nous avons ici affaire, au sein de l'Église catholique, à un véritable réveil évangélique. Au moment même, l'ironie de la chose, au moment même où, comment dirais-je, Louis XIV vient d'éliminer le protestantisme qui prêchait une doctrine à peu près semblable, en fin de compte, voilà qu'elle réapparaît au sein même, n'est-ce pas, du catholicisme. Non seulement il y a ainsi des retraites qui sont organisées à Port-Royal, mais également Angélique Arnaud et son frère ouvrent des écoles. Le mouvement janséniste gagne la France entière. Parmi les plus célèbres jansénistes, on trouvera Racine, Jean Racine, le dramaturge bien connu, qui après avoir vécu une vie de dérèglement, comme c'était le cas à peu près de tous ceux qui se livraient au théâtre à cette époque-là, à la fin de sa vie va se convertir au jansénisme. Et les dernières tragédies qu'il écrira seront fortement marquées par le jansénisme, notamment les deux pièces bibliques, les deux tragédies bibliques qu'il écrira, Esther et Athalie, hein, qui relatent deux événements bibliques. L'histoire de la reine Esther, dans laquelle on voit justement la prédestination de Dieu. Esther, n'est-ce pas, qui arrive au trône par le quelque sorte la grâce de Dieu, qui délivre Israël par un concours de circonstances dans lequel on mesure la grâce de Dieu. Et puis Athalie, n'est-ce pas, la reine impie, qui elle, au contraire, est rejetée, est perdue, et finalement qui ne parvient pas à accomplir les desseins parce que le Seigneur le Tout-Puissant l'en empêche. Alors, bien entendu, le problème qui naît, il y a des controverses extrêmement vives entre notamment les jansénistes et les jésuites. Et les controverses portent d'abord, n'est-ce pas, sur le problème du salut, le salut éternel. Les rapports entre la grâce et la volonté, la grâce et le libre arbitre, bon, c'est pas nouveau, chaque fois, n'est-ce pas, qu'on touche à ces questions de grâce et de prédestination, automatiquement on arrive à ces problèmes-là. Et alors, les jansénistes, évidemment, sont en opposition totale avec les conclusions du Concile de Trente, pour lesquelles la grâce n'est qu'une surnature qui agit sur la volonté humaine en sorte que le salut n'est en fin de compte que le résultat de la volonté humaine énergisée par la grâce de Dieu. Alors, voici ici les cinq points fondamentaux des jansénistes. Hein, les cinq propositions qui ont été élaborées justement par le grand Arnaud. Premièrement, quelques commandements de Dieu sont impossibles à des hommes justes qui veulent les accomplir et qui font à cet effet des efforts selon les forces présentes qu'ils ont. La grâce qui les rendrait possibles leur manque. dans l'état de nature tombée. Donc ici, deuxième point. Dans l'état de nature tombée, c'est-à-dire on confirme la déchéance totale de la nature humaine, on ne résiste jamais à la grâce intérieure. Donc la grâce est une force irrésistible, d'où l'idée de prédestination, à laquelle la nature déchue, quand elle reçoit cette grâce, ne peut pas résister. C'est la négation du libre arbitre, la négation de la volonté de l'homme. C'est une position très extrémiste. Très extrémiste. Troisièmement, qui n'est pas biblique, dans l'état de nature tombée, pour mériter ou démériter, on n'a pas besoin d'une nature exempte de nécessité. Il suffit d'avoir une liberté exempte de coaction et de contrainte. Quatrième point, on attaque les semi-pélagiens, c'est-à-dire les jésuites. Bon, on ne les attaque pas en tant que jésuites, bien sûr. On les attaque en tant que semi-pélagiens. Pélage étant l'adversaire d'Augustin, n'est-ce pas, qui enseignait que la grâce peut se mériter par les efforts des hommes. Les semi-pélagiens admettaient la nécessité d'une grâce prévenante qui agissait pour toutes les bonnes œuvres, même pour le commencement de la foi. Mais ils étaient hérétiques en ce qu'ils pensaient que la volonté de l'homme pouvait s'y soumettre ou y résister. C'est une erreur semi-pélagienne de dire que Jésus-Christ est mort et qu'il a répandu son sang pour tous les hommes. Et vous, on rejoint Calvin. On rejoint Calvin ici. Christ n'est mort que pour les élus, et il n'est pas mort pour tous les hommes. Donc ici, c'est un alignement sur les thèses de Calvin, sans nuance, sans problème, bien qu'on s'en défende. Ah, alors là, il ne faut surtout pas dire aux jansénistes qu'ils sont huguenots, qu'ils sont calvinistes, qu'ils sont protestants. Ah, que non! C'est qu'ils sont catholiques, les jansénistes. Et catholiques à fond. Ils continuent à avoir le culte des saints, de la Vierge, ils en rajoutent, pour montrer justement qu'ils ne sont pas protestants. Car s'ils le faisaient, bien entendu, alors là, immédiatement, ils seraient persécutés. Alors pour eux, si vous voulez, le forcing qu'ils font dans les aspects hérétiques, mais relativement secondaires tout de même, de la piété catholique, si vous voulez, sont là comme, en quelque sorte, pour les dédouaner. Les dédouaner de ce qui apparaît pour eux l'essentiel, c'est-à-dire la redécouverte du salut par la foi et de l'autorité de la Bible. Donc, les jésuites, eux, insistent sur la volonté humaine. Et ce faisant, on ne peut pas avoir d'assurance du salut, il n'y a qu'une probabilité. Et pour eux, dans les controverses, n'est-ce pas, avec les jansénistes, eh bien, ils disent qu'enseigner ce que les jansénistes enseignent, c'est-à-dire l'assurance du salut, provoque le laxisme. Bon, c'est faux, car on voit comment les jansénistes vivent, au contraire, ils vivent dans une vie infiniment plus sanctifiée que les semi-pélagianistes, comme ils les appellent. Hein. Seulement, les jansénistes ont un point fort pour leur attaque, c'est que le Concile de Trente, s'il a posé le principe de la grâce efficace qui agit sur la volonté humaine, n'a pas explicité comment les deux réalités collaborent l'une avec l'autre. Et c'est dans ce coin-là qu'a été laissé en suspens par le Concile de Trente que la théologie janséniste s'engage. Alors, au bout d'un temps quand même, les jésuites, qui ne sont pas fous, se rendent bien compte que Jansénus a des vues qui sont quand même proches de celles de Calvin. Et les jansénistes ont beau clamer à qui veut les entendre qu'ils ne sont pas calvinistes, le pape Paul V finit par les condamner comme hérétiques calvinistes. Port-Royal, au départ, était un couvent cistercien, donc d'une stricte obédience. Et dans ce mouvement janséniste qui rayonne depuis Port-Royal, il va y avoir de grands savants qui vont être conquis par le jansénisme. Parmi eux, le plus célèbre, Blaise Pascal. Blaise Pascal, qui va prendre fait et cause pour le jansénisme au plus chaud de la controverse avec les jésuites, et qui se rend célèbre en publiant les lettres d'un provincial, c'est-à-dire un ami parisien, n'est-ce pas ? On appelle pour cette raison les provinciales, dans lesquelles, sous un ton faussement naïf, il attaque la théologie jésuite. Il attaque l'hypocrisie des jésuites. Il attaque notamment, n'est-ce pas, la casuistique jésuite, et notamment l'idée que, n'est-ce pas, qu'il peut y avoir une espèce de double langage, Par exemple, vous citez quelques exemples. Les jésuites enseignaient, n'est-ce pas, que, bien entendu, il ne faut pas mentir. Ça, la Bible l'interdit. Le catholicisme aussi, il ne faut pas mentir, n'est-ce pas. Mais par exemple, si on vient vous trouver et puis qu'on vous demande, n'est-ce pas, est-ce que de telle personne est là? Bon, elle est là, personnellement, vous savez bien. Mais par exemple, vous a demandé vous voulez pas dire à votre interlocuteur qu'elle est là, cette personne. Alors vous regardez fixement vos souliers, vous dites non, elle n'est pas là, c'est-à-dire elle n'est pas dans mes souliers. C'est ce qu'on appelle la restriction de pensée. Il y a une restriction de pensée. Alors, les jésuites ont codifié ça très très attentivement, n'est-ce pas ? Comment faire, n'est-ce pas ? Ce qui permet de tourner, si vous voulez, les lois morales. Alors, qu'est-ce que Pascal leur met dans les provinciales ? Je crois que les provinciales de Pascal ont fait plus pour discréditer les jésuites que n'importe quoi d'autre. Là, ils sont liquidés, ils sont cisaillés. C'est un éclat de rire formidable, n'est-ce pas, à Paris tout entier, aux lettres provinciales qui sont publiées dans les gazettes locales toutes les semaines ou tous les mois, n'est-ce pas. Alors, on attend la suite avec impatience, n'est-ce pas. Les jésuites sont foudrages, ils écument, n'est-ce pas. Rien n'y fait. Alors, Pascal est un homme qui, au départ, était un athée. Et qui a cherché Dieu de tout son cœur et a fait une expérience de conversion. Une expérience de conversion, donc l'expérience de la grâce. Et c'est pourquoi donc il est entré à fond dans la vision janséniste. Et plus tard, à la fin de sa vie, Pascal écrira son dernier recueil, d'ailleurs, qu'il n'avait pas achevé. Il avait pris des notes simplement pour écrire un ouvrage beaucoup plus conséquent, sûrement, qu'on a retrouvé après sa mort à l'état de notes pas élaborées et qui a été publié après sa mort sous le nom des Pensées de Pascal. Et notamment, il y a une des plus belles pages de Pascal dans les Pensées qui est le récit de sa conversion. Ce petit billet qu'il avait, dans lequel il avait écrit ce qui s'était passé dans une nuit mémorable. Pendant tout un temps, il s'est demandé ce qu'il était élu et ce qu'il n'était pas élu. Et un soir, n'est-ce pas, de l'an de grâce, comme il dit, 1654, je ne sais plus, le 23 novembre, très exactement, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres martyrologues, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'environ minuit et demi, feu. Là, une expérience bouleversante, spirituelle, une action du Saint-Esprit, la conversion. Alors voilà comment il explique ce qui s'est passé. Alors c'était des notes qu'il avait prises comme ça, au fur et à mesure, pendant de 10h30 du soir jusqu'à minuit et demi, deux heures de visitation du Saint-Esprit, au fur et à mesure, il marquait. Et c'était quelque chose qu'il a, pour être sûr, là, il était certain à ce moment-là qu'il était sauvé, à suite de cette expérience. Alors il avait cousu ça, n'est-ce pas, ce petit billet, dans son pourpoint, et après sa mort, on l'a retrouvé. Il avait constamment ça sur lui, sûrement il le relisait de temps en temps. Alors voici ce qu'il écrit. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Non pas Dieu des philosophes et des savants. Et on voit que c'est des choses lapidaires, mais qui correspondaient à quelque chose qu'il avait vécu intensément. C'est des notes simplement pour lui, quoi. Certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Mon Dieu est votre Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde, de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par des voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. De relinquerunt me fontem aquae viva. Vivae. Des fleuves d'eau vive coudront comme une fontaine. Mon Dieu, me quitterez-vous, que je ne sois pas séparé de vous éternellement. C'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et deux fois, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Maintenant que je n'en sois plus jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Bon, ça c'est la vision catholique encore qui reste. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non oblivis car sermones tuos. Amen. Je n'oublierai pas tes enseignements. Amen. C'était tout. Quelques notes comme ça. Mais on sent que c'était quelque chose de profondément vécu, quelque chose qu'il avait vécu intensément. Et des notes là qui évoquaient lapidairement, mais quelque chose de bouleversant, quelque chose de profond. Une expérience d'ailleurs que des psychologues, sur lesquels des psychologues et des psychiatres se sont penchés sur ce texte-là en particulier, sur lequel on sent bien que là, il y a une autre dimension, il y a une autre réalité, feu, comme il le dit. Hein. Le mot qui résume tout, le feu. Alors Pascal, donc, prend feu, c'est le cas de le dire, pour l'Évangile. Et alors, les provinciales sont un chef-d'œuvre de polémique. Elles ont un énorme succès. En 1665, donc, les pensées sont publiées. Et alors là, ça divise le clergé français. Parce que vous comprenez, là, c'est du vécu. C'est pas du baratin, c'est pas de la théologie, c'est pas des spéculations métaphysiques. Mais c'est quelque chose de vécu. Et les pensées de Pascal, qui viennent après les provinciales, ont une énorme influence pour l'expansion des idées jansénistes. Finalement, le pape Clément IX impose une sorte de compromis. Et toujours à Port-Royal, dans le même temps. La première traduction de la Bible en langue française diffusée à grande échelle a été élaborée par un janséniste qui s'appelle le Maître de Sacy. Le Maître de Sacy, traducteur de la Bible, n'est-ce pas ? Et qui donc est le premier à publier donc une grande, cette œuvre monumentale. L'oratoire de Port-Royal, comme on l'appelle, publie alors livre sur livre. Et parmi eux, un oratorien, comme on les appelle, n'est-ce pas, il s'appelle Cunel, appelle à un concile général pour traiter de cette question. Ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Vous comprenez que le concile de Trente, qui a enterré le problème de la réforme, va pas redébattre le problème à l'intérieur de l'Église catholique pour le voir ressurgir. Et c'est ainsi que, en 1652, l'abbé de Saint-Cyr est enfermé. Il est enfermé à Bastille après avoir été condamné par la Sorbonne. Et les jésuites demandent au pape de condamner les 5 propositions jansénistes que nous avons lues tout à l'heure. Et il faudra attendre 1709 pour que Louis XIV, qui est les jansénistes, voyant que finalement les appels du pape Clément V, qui a essayé d'imposer une paix de compromis, n'ont pas abouti et que le jansénisme se répand de plus belle dans ses états, fait raser Port-Royal. En sorte que, je ne sais pas si on peut retrouver encore aujourd'hui même le lieu où se trouvait l'abbaye de Port-Royal. Et pourtant, Port-Royal continuera à être un espèce de lieu de pèlerinage pour tous ceux qui restent marqués par ce mouvement si profond, si puissant, qui a secoué la France de Louis XIV, qui a été le mouvement janséniste. 4 ans plus tard, en 1717, le pape publie la bulle Unigenitus, qui condamne le jansénisme. Dans la foulée, la même bulle condamne le Nouveau Testament de Lemestre de Sacy, comme on l'avait fait pour le Nouveau Testament de Luther. Et alors, le jansénisme se réfugie en Hollande, où il a continué d'ailleurs à exister jusqu'à ce jour. Il existe encore une petite communauté janséniste en Hollande de nos jours. Donc, le jansénisme disparaît par la persécution. Exactement comme la réforme de Luther et de Calvin. Mais le jansénisme en France a amené de nombreux catholiques à se tourner vers la foi véritable en Jésus-Christ et puis apporter un coup fatal aux jésuites et empêcher la morale catholique de sombrer complètement. Et jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, le catholicisme, grâce au jansénisme, a maintenu une certaine ligne morale. Et si aujourd'hui le pape rappelle les données de la morale, eh bien c'est sans savoir sans doute, ou sans en avoir conscience, ou sans vouloir le reconnaître, je ne sais pas. C'est grâce justement à cet effort des jansénistes. Et on voit en même temps l'intolérance catholique qui est allée jusqu'à donc persécuter en son propre sein ce qui était en quelque sorte l'émanation la plus évangélique du catholicisme de cette période-là. Et on a été à deux doigts d'une persécution violente, de bûcher ou de choses semblables. C'était à deux doigts. On n'a pas osé jusque-là, aller jusque-là, mais on n'en était pas loin. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire d'un des aspects du catholicisme à cette période-là. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?